要还贷款呢，还有贷款呢。
可以，来点什么？不来，那离不得了呗，那中国啊。
他陪着你吗？你就招待他呗。
捡不起来呗，你这个你好些呗。
怎么讲不起来了？聊得到一块去哦，总会有方法的嘛。
尴尬了，
那有没尴尬的嘞？他也没什么尴尬的。
我就看电视呗。
看电视吗？哎呀，去那里玩也还好。
那地方也还好，因为那个地方是还好。
是的，就是冷，其他还没什么。
就是冷了，你在，你在法国不冷啊？
我在法国还好，不怎么冷。
这个冷啊，
德国冷呢，跟冰岛一样的冷呢。
是吧？外头那个咖喱不冷吗？
咖喱不冷，咖喱有点暖。
哦，有电脑。哎，其实他没有死，他们以为他死。看那个电视哦，也你妈妈哪里？
没有啊，猫姨好看，好看，好看哦。有这个店，到时候再赶吧。
看着，有时候晚上看着好看，不一定呗，不一定好看。
好嘛，好嘛。
看看要好看的话，其实不好看。
好嘛，好嘛。
帽子搞个那个彩色的是吧？毛的也穿一个。哎，好了，下单。
好，不跟你们聊了，我一会儿也要做饭去了，晚上再跟你们聊。
好嘞，拜拜。
好，拜拜。
哦，拜拜。
Merci beaucoup Catherine pour cette invitation dans l'espace domestique de ta famille. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour parler de cette création?
Ah, c'est juste parce que en fait, moi et ma famille ils sont très loin parce qu'ils sont habitants en Islande. Donc chaque semaine, j'ai essayé de faire chaque semaine en fait de vidéo chat et pour moi. Vivre en France, c'est un peu difficile sans famille. Donc, il me manque beaucoup. Et pour moi, le souvenir de ma famille, c'est le repas. Et toujours, enfin, le plat chinois, on a les tables rondes, on partage le repas. Donc, l'idée, c'est que je mélangeais de conversation et avec de sons de cuisine, ça crée une ambiance dans la vie quotidienne. Donc, je trouve que c'est assez beau. Mais c'est juste la conversation, c'est un peu intime, c'est en chinois. Et le sous-titre que j'ai essayé de traduire, c'est vraiment difficile. J'étais inspirée par le John Cage, quand lui fait enregistrer le texte de conférence, lui l'a mis de petits points comme de pause. Parce que si vous écrivez le texte avec tout le mot, il n'y a pas de pause, c'est juste un peu froid. Donc j'ai gardé cette manière. Et le difficile, la partie la plus difficile, c'est parce que la tonalité, le chinois et le français, c'est totalement différent. Pour moi, c'est peut-être c'est pas très exactement la pause, mais je me sens un peu. Oui, voilà.
Merci beaucoup. On va écouter maintenant une cinquième création, celle de. La barre va monter très très haut. Celle de Peter Sinclair, artiste enseignant à l'École d'art d'Aix-en-Provence, et Amélie Perrault, documentariste radio, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui nous présente une pièce intitulée, alors je n'ai pas eu le titre qui m'a été transmis, Peter peut-être
Non.
Cette pièce s'appelle Non.
Fonce sur nous.
Alors, la VHF, VHF, Very High Frequency, est un mode de communication qui utilise les fréquences de 152 MHz à 165 MHz. En fait, en mer, elle est plutôt appelée radiotéléphonie maritime. Elle permet des communications entre navires, qu'on appelle des stations, mais également entre les sémaphores et les navires. Elle permet aussi de coordonner les opérations de secours en mer entre les crosses et les navires de secours.
Altaïr pour compte de base Niolon.
Compte de base Niolon pour Altaïr.
Altaïr pour le compte de base, je vous reçois fort et clair.
Alors il faut savoir qu'avec la VHF, les modes de communication se font en simplex. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter comme en téléphonie classique en répondant et en parlant sur le même canal. Il faut attendre que la communication du correspondant soit terminée pour pouvoir reprendre la main. C'est pour cela qu'on fait des appels en annonçant sa propre identité. Par exemple, en annonçant le nom de son bateau, en le répétant trois fois, Altaïr, ou Kasumai, ou Titanic, et en invectivant l'autre correspondant par son nom trois fois répété. Cross-Corsen.
Ici Altaïr, voilier de 7 mètres, j'appelle camp de base pour un essai radio.
Alors bien sûr, la VHF est un canal de communication public. Tout ce qui est transmis sur la VHF est audible par l'ensemble des plaisanciers et des navigateurs et navigatrices qui sont sur l'eau à ce moment-là. Il y a un canal, le canal 16, qui est le canal de veille, qui ne doit surtout pas être encombré, puisque c'est le canal qui va permettre de coordonner les opérations de secours. Sur ce canal, on ne peut que transmettre des informations de sécurité, de météorologie, des appels de détresse. Et si l'on doit communiquer avec un autre bateau sur un canal plus privé, on doit passer sur le 6, le 7, le 77 par exemple. Mais attention, ce n'est pas parce que les communications sont privées qu'on peut se permettre n'importe quoi. La VHF est un mode de communication qui est destiné aux transmissions d'informations pertinentes et non pas à l'occupation de loisirs.
Cap Sud pour le moment.
C'est un peu vague,
Altaïr. Ben, je pense qu'on va passer par Gibraltar. Je vois pas d'autres routes.
Campagnolon pour Altaïr. Est-ce qu'il y a des malades à bord?
Non, je suis seul et ça va bien.
Campagnolon pour Altaïr. Altaïr, votre carte nous paraît un peu étrange. Vous pouvez être vers quelle destination exactement?
Ah ben, on m'a parlé d'une nouvelle île. Je crois que c'est dans l'Atlantique.
Altaïr, qu'est-ce que c'est cette histoire d'île là?
C'est une île en cours de construction et on m'a dit que j'ai rencontré un marin qui en revenait et il le construit avec le plastique qui flotte par là-bas.
Altaïr, vous êtes sûr que tout le monde va bien sur le bateau? Altaïr, est-ce que vous pouvez compter de 1 à 10 s'il vous plaît?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense que vous suspectez des hallucinations, mais je vous assure, tout va bien. J'ai pas de passeport, ceci, mais... Il paraît que là-bas, en fait, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de règles d'immigration. Le seul tri, c'est qu'il faut arriver à la voile. On n'accepte pas les bateaux à moteur, je crois. C'est les ingénieurs et les chercheurs qui ont plus de postes dans les universités américaines, je crois, qui sont à l'initiative.
Et qu'est-ce qu'ils font là-bas?
Ah ben, ils essaient de vivre sainement, hein, sans trop d'hierarchie, sans trop de pression, voilà, donc en harmonie avec leur environnement. C'est une île en cours de construction, donc c'est une sorte de... Enfin, c'est plutôt un archipel d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, c'est des petits îlots qui sont reliés entre eux. Ils ont trouvé une technique qui permet, à partir des algues et les plastiques qui flottent et de l'énergie solaire, de tout amalgamer. Et voilà, ils s'installent comme ça.
Bon voyage à vous, Altaïr.
Merci. Bon cas.
Bon cas à vous aussi.
Merci beaucoup Peter et Amélie et Fabrice, dont tout le monde aura reconnu la voix. Est-ce que Peter, Amélie, vous voulez rajouter quelque chose?
Juste profiter de cette antenne pour dire qu'on n'a toujours pas eu de nouvelles de Peter. Donc si par hasard quelqu'un le croise, comme on a quelques universitaires qui sont là autour de nous, voilà, je lance un appel.
On va aller le chercher.
Ce serait prudent.
Alors, comme nous n'avons pas encore trouvé Peter, comme nous n'avons pas encore retrouvé Peter Sinclair, nous allons passer à une sixième création, alors là, pour le coup, beaucoup plus sérieuse, avec Mathieu Demory, sociologue au pôle empirique de l'Institut national supérieur du professorat et d'éducation d'Aix-Marseille Université, et Cédric Parizeau, moi-même, anthropologue à l'IREMAM.
Coup de hanche en eau trouble. Un documentaire radiophonique de Mathieu Demory et Cédric Parizeau. Avec les voix de Sarah Andrieux, anthropologue, Mathieu Demory, sociologue, Cédric Parizeau, anthropologue. Novembre 2025, port de Niolon.
Tu veux filer un coup de main?
Ben oui.
Je vais juste en tirant sur le...
Ben
Parce que je pourrais peut-être essayer quelque chose, là, je crois que j'ai... J'ai attrapé quelque chose. Facile, hein.
Comment tu te sens?
Bah, c'est vraiment délicat. Mais là, j'en suis pas encore là. Pour l'instant, j'arrive à peine à découvrir l'importance du coup de hanche et du lever du genou droit, quoi.
Mathieu, est-ce que tu peux m'expliquer ce que Cédric est en train de faire avec son kayak au bord de l'eau?
Ça a l'air compliqué. J'entendais parler de mémoire musculaire, et donc de s'entraîner au mouvement pour que son corps s'en souvienne lors d'une situation qui nécessite un escamotage. Mais c'est pas quelque chose qui doit s'apprendre en quelques minutes. Il faut le pratiquer pour pouvoir avoir le bon coup de hanche.
Ça a l'air de marcher. Je recommence. Waouh!
En fait, tu mimes la situation où tu te retournes accidentellement. Et en fait, il faut ce que tu cherches à savoir faire, le savoir-faire que tu cherches à acquérir là, c'est de te retourner quand tu es sous l'eau.
Exactement.
C'est ça. Et donc, du coup, il faut que tu te mettes sous l'eau pour reproduire la situation. Moi, j'avais pas compris ça. J'ai cru que c'était pour sortir, en fait.
En fait,
se retourner pour t'évader du kayak.
À imprimer dans les muscles, enfin, à travailler sur la mémoire neuromusculaire, c'est-à-dire à faire les bons mouvements. Qui permettent, si tu veux, de...
Avec tes cuisses.
Alors, en fait, il faut lever le genou droit. Tu lèves le genou droit comme si tu l'amenais vers ta poitrine.
C'est
rigolo. Tu vois, tu fais comme ça.
J'aimerais bien le voir
sans le kayak.
Ouais.
Bah, je te montrerai si tu veux.
Coup de hanche en eau trouble, documentaire sonore réalisé dans le cadre du workshop Radio Doc avec l'appui d'Amélie Perrault, Léa Pintendre, François Parra et Peter Sinclair.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Je vais passer la parole tout de suite à Mathieu Demory.
Je ne vais pas rester sérieux, hein, continuer dans cette lignée. Donc, pour vous dire que Coup de hanche en eau trouble, c'est un documentaire sonore expérimental qui plonge littéralement l'auditoire au cœur de l'esquimotage en kayak. Geste élégant, un peu magique, souvent douloureux à apprendre et toujours difficile à expliquer sans finir trempé. Inspiré de l'univers des tutos très codifiés sur YouTube, le projet détourne leur code pour faire une exploration sensible, ludique et aquatique de cette technique d'auto-redressement. Petit point technique, si vous voulez, le documentaire il mêle deux approches d'enregistrement, le couple XY pour capter au plus près la précision des conseils, des gestes et des ambiances, et de l'hydrophonie pour saisir ce qui se passe vraiment là-dessous. D'un point de vue esthétique, l'équipe revendique fièrement son affiliation à la très libre école du doigt mouillé, une méthode empirique intuitive où l'on avance à l'oreille, on expérimente, on rate, on recommence et on garde au montage ce qui sonne juste ou ce qui fait sourire. à la croisée du faux tutoriel, de l'essai sensoriel, rien que ça, et de la petite fiction aquatique, Coup de hanche en eau trouble, invite à écouter le geste technique comme une aventure complète, un moment où le corps, le son et l'eau discutent ensemble. Parfois d'accord, souvent en désaccord, mais toujours avec souplesse.
Merci beaucoup Mathieu. Alors maintenant, on va écouter une septième création, celle de Joachim Song, étudiante à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence, et Maya Tahari, doctorante en sociologie à Mésopolis. La pièce s'intitule « Autrement que carré dans l'assiette ».
Allez, Victor et demi.
De caille à demi, hein.
Merci. Bon, et café.
Merci. Allez, à part. Bonjour. Je prenais renseignements auprès de mon chef de ce qu'il voulait cuisiner aujourd'hui. Je vais prendre un petit poisson comme ça.
Ouais, sous les bureaux.
Ouais, si c'est possible.
Bonjour.
Bonjour.
Oui. On est des étudiantes des Beaux-Arts à Aix et on fait un podcast. Sur la criée.
Sur la criée,
oui. Un petit air.
Excusez-moi, bonjour, vous n'avez pas le violet?
Oui, non, je ne pêche pas le violet.
Je m'appelle Sandrine.
Bonjour Sandrine.
Bonjour. Alors, véritablement, moi je ne pêche pas. J'ai mon ami qui va à la mer, qui se lève relativement tôt pour poser les filets. Donc il se lève vers 2-3 heures du matin. D'accord. Nous, on a une zone de pêche qui est très précise. Nous, on pêche, c'est la côte bleue Carie, Saucé, Niolon. Voilà, on est à une dizaine de kilomètres des côtes. Et de toute façon, il n'y a pas à tortiller. Il y a un bateau, donc on a du produit frit. Il n'y a pas de... Parce qu'il y a des personnes, des fois, qui viennent et qui vous disent « Mais c'est du jour. Vous avez encore le poisson qui est vivant. » Mais ils vous disent « C'est du jour. » Bon, vous dites « Bon. » Non, on a mis des piles ce matin dans le poisson pour les faire un peu frétiller. Donc voilà, on va dire « On suit un peu comme les saisons. » Nous, c'est l'été, le printemps, l'automne, vous voyez. Et bien, les poissons, c'est la même chose, comme les fruits et les légumes. Moi, des fois, il y a des clients, ils me disent « Oui, vous n'avez pas de la sardine ?» Non, je n'ai pas de la sardine. C'est comme si vous me demandez de la pastèque en décembre, quoi. Ah ben là, en ce moment, on a beaucoup de poissons de roche, donc pour faire la soupe de poisson. Donc la soupe de poisson, hein, il ne faut pas oublier ben, le fenouil, le concentré de tomate, le vin blanc, qu'est-ce qu'on met encore, l'ail, l'oignon, le persil, le safran, bon, tout ça pour avoir une bonne soupe de poisson, c'est sans oublier les croutons et l'aïoli.
Exactement.
Parce que si vous oubliez ça, vous oubliez tout. Hein. On n'est plus à Marseille, hein, sinon. Hein. Mes grands-pères étaient deux patrons pêcheurs. Donc eux, c'est vrai qu'avant, ils faisaient la soupe de poisson, c'était avec les poissons qui restaient sur le bateau, qui ne vendaient pas. Et tous les poissons qui restaient, ils s'en servaient pour faire la soupe de poisson, qui était délicieuse, je vous avoue. Moi, j'ai perdu un grand-père, donc je ne l'ai pas connu, je le sais à rapport à ma mère. Mais l'autre grand-père, voilà, moi je le voyais dans la cour, il refaisait ses filets pour le bateau. Donc tout ça, moi je l'ai vu de toute petite, donc je voyais qu'il y avait quand même une passion, que c'était un travail. Puis en grandissant, vous dites, c'est vrai, maintenant j'avoue que c'est du boulot. Quand je vois aujourd'hui mon ami qui va à la pêche et qui me dit j'ai pris du mauvais temps et que j'ai tous les filets déchirés et que la somme que ça revient, parce qu'il ne faut pas croire, on se dit ouais c'est... Mais bon, certains filets ça va jusqu'à 25-30 000 euros.
Laissez-le tranquille après
l'autre. Moi il y a des clients qui me disent ouais mais la semaine dernière je suis passé, c'était 12 euros et là c'est 15. Je dis oui mais le poisson c'est comme la bourse. Hein. Ça veut dire tout dépend de la mer, comme je vous expliquais tout à l'heure. De plein de choses et du coup ça peut très varier quoi. S'il y a mauvais temps, très peu de poissons, bien sûr que le poisson augmente, ça peut varier d'un jour à un autre quoi. Au départ j'avais très peur du poisson, je ne vous le cache pas, très peur dans le sens où je ne voulais pas en manger, ça a duré jusqu'à l'âge de 19 ans quand même hein. Et le jour où j'ai voulu vraiment travailler et qu'il fallait que je travaille, eh ben, où je suis tombée, dans une poissonnerie.
Pour les enfants ça c'est bon.
C'est pas une arête, il n'y a que l'arête centrale.
Le client reste le client, d'accord? Mais je suis là aussi, pas que pour vendre, je suis là aussi pour leur expliquer. On va dire une fois par semaine, j'ai des classes qui passent. Je leur explique, voilà, le poulpe, il a 8 pattes, on l'appelle octopus, c'est son nom grec, il a 8 cerveaux, c'est le plus intelligent des mollusques. Je veux dire, il y a plein de choses à savoir, ils sont là, pourquoi la dorade royale? Eh bien, elle a une couronne entre les deux yeux, il n'y en a que 3 sortes, mais celle-là, c'est la plus grande des dorades. Vous voyez, j'essaye de les amener à connaître, à reconnaître le poisson autrement que carré dans une assiette.
Bah, il m'en faudrait 2 ou 3 kilos. 3 kilos, c'est mieux, 2 kilos.
Les jeunes commencent à, on va dire, 25, 35 ans, se rapprocher sur du frais. Alors, vous n'avez jamais fait, on va commencer par un poisson blanc, très peu d'arêtes, comme le merlan, c'est le premier poisson qu'on donne aux enfants. Et de les orienter comme ça, doucement, et vous voyez, hop, ils reviennent. Après, ils disent, ah, ben, on a goûté, c'était super bon. Quand on a du maquereau, bon, mais je dis ça, c'est des oméga 3, donc c'est important, il en faut. S'il en faut pour le corps, vous pouvez vous les faire en filet, vous badigeonnez un petit peu de moutarde, vous mettez un peu de la chapelure, et puis au dernier moment, vous le faites cuire à la poêle, c'est le top, il ne faut pas grand-chose. Certains produits ne font pas grand-chose. Le poisson lui-même, il a déjà tous ses goûts, tous ses parfums.
Et d'ailleurs, vous, comme vous n'aimiez pas le poisson, c'est non. Lequel le premier poisson que vous avez mangé?
Le saumon, qui n'a rien à voir avec la Méditerranée. Et je l'aime toujours, le saumon.
Merci beaucoup.
Ben de rien, vraiment. Vous êtes partie avec moi, là, un petit peu.
Complètement.
Voilà, même des fois, comme je dis, même si vous passez, faites un petit coucou, ça nous fait plaisir. Moi, je ne vous le cache pas, la semaine dernière, on était avec 2 clients en train de boire notre café.
Merci beaucoup. Est-ce que Joachim et Maya, vous voulez rajouter quelque chose? Joachim?
Oui, bonjour. Voilà, c'est Marseille et Pépé. Et voilà, j'adore notre copine Sandrine. Et mais oui, dans notre pièce, on a surtout suivi une vendeuse de poissons du Vieux-Port. Elle est incroyablement drôle et vive. Et on sent que une vraie sagesse du quotidien et dans sa façon de parler de son métier, de sa vie. Et en fait, ce qui m'a touchée, c'est qu'elle transforme le marché en scène entre les cris, l'humour et les gestes du travail. Elle raconte Marseille sans jamais faire un discours. Et voilà.
Et juste se rappeler... Ce qui était important, en tout cas, nous, ce qu'on a trouvé, c'était la transmission, pas seulement d'elle dans sa famille, mais la transmission du bon produit et la transmission à l'autre. Et c'est juste une expérience client. Donc, j'espère que ça vous a donné envie d'aller à la criée, d'aller voir Sandrine et de cuisiner ce week-end.
Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à une huitième création, celle de Magali Nongeon, qui est politiste, co-directrice du laboratoire Mésopolis, qui, je vous le rappelle, est le Centre méditerranéen de sociologie, de sciences politiques et d'histoire à la Maison méditerranéenne des sciences humaines, pas très loin d'ici, au Jas de Bouffan. Et Fabrice Galis, qui est docteur en recherche-création au laboratoire d'études en sciences des arts et à Locus Sonus Vitae. Et leur création s'intitule « Malia, son père et la mère ».
Moi, j'habite à Marseille, je suis née à Alger, j'ai toute ma vie vécu au bord de la mer. Je voyais la mer depuis mon lycée, c'est quelque chose qui m'apaise, que je trouve très beau. Quand je suis un peu stressée ou que je passe des moments difficiles, ça m'arrive d'aller à la mer toute seule, juste de poser une serviette et aller voir la mer. En plein été, mois de juillet, avec les enfants qui crient partout, qui sont ultra heureux, l'eau qui frappe contre les rochers, contre le sable, à la plage de l'Estac, qui est une plage pas très loin de chez moi. Et, Et ça crie, ça drague, ça s'amuse. Et je pense que pour moi, ça reste quand même l'une des plus belles images de Marseille. Enfin, l'un des plus beaux sons de Marseille, c'est vraiment la fête, s'amuser au bord de la mer. Avec en fond.